Le journal, Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un chanteur lyrique poursuivi pour harcèlement sexuel, Placido Domingo. Plusieurs femmes l'accusent d'avances répétées et de comportements déplacés. Les autres titres, Julie ?
Le trafic a repris à l'aéroport de Hong Kong ce matin après une soirée de heurts hier soir. La violence s'accentue entre militants et forces de l'ordre. Il y a un an, le pont Morandi à Gênes s'écroulait, tuant 43 personnes, dont 4 Français. Leurs proches se sentent très seuls aujourd'hui face à la bataille judiciaire. L'inquiétude des parents dans l'Aude. Une trentaine d'enfants présentent des taux d'arsenic supérieurs à la moyenne. Ils habitent tous près de l'ancienne usine d'or de Salsignes. Et puis les cinéphiles s'enlèchent déjà les babines. 2 stars américaines réunies à l'affiche du dernier Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood sort aujourd'hui dans les salles de cinéma.
Les invités du 6-9 à 8h moins le quart, la journaliste et écrivaine Myriam Leroy qui publie au Seuil « Les yeux rouges », un livre qui raconte le harcèlement sur le net. 8h20, le grand entretien, les dossiers économiques chauds du gouvernement à la rentrée, les chiffres du chômage que l'on connaîtra dans une vingtaine de minutes avec 2 invités, Gilles Berset qui est professeur d'économie à l'université Aix-Marseille et Stéphane Carcillo, chef de la division emploi-revenu de l'OCDE, professeur au département économie de Sciences Po. Vous pouvez les interroger dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand un ténor est rattrapé par le mouvement MeToo, Placido Domingo, l'un des plus grands chanteurs d'opéra, est accusé par 9 femmes d'harcèlement sexuel. Des gestes déplacés, des baisers forcés, des allégations démenties par la star du chant lyrique.
Comment dire non à Dieu ? La question, une jeune chanteuse d'opéra se l'est posée devant les avances répétées de Placido Domingo. Dans le milieu, le ténor aux 4000 performances est aussi incontournable que puissant. La preuve, comme 8 des 9 accusatrices, cet artiste a préféré garder l'anonymat, inquiète des répercussions sur sa carrière. Mains baladeuses, bises baveuses, passage surprise dans les loges, promesses de promotion, coup de fil au milieu de la nuit. Placido Domingo était, selon des dizaines de chanteurs, danseurs, musiciens ou techniciens interviewés par l'agence IP, coutumier des gestes déplacés, et cela depuis des années. L'Espagnol de 78 ans dit trouver ces allégations troublantes et inexactes, assurant qu'il a toujours cru que ces relations étaient consenties. L'opéra de Los Angeles, qu'il dirige depuis 2003, a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante. De son côté, l'opéra de Philadelphie lui a déjà retiré son invitation pour son gala d'ouverture le mois prochain. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Les États-Unis où les premières sanctions tombent dans l'affaire Epstein. Le directeur de la prison de Manhattan où le milliardaire a été retrouvé mort samedi dernier a été muté. 2 employés sont quant à eux suspendus. Des sanctions prises par le ministre de la Justice qui dénonce de graves irrégularités dans cette prison, connue pourtant pour être l'une des plus sûres du pays. Le combat des militants hongkongais se durcit. Ils étaient plusieurs milliers à occuper à nouveau l'aéroport hier pour le 4e jour consécutif. Les manifestants ont bloqué le hall des arrivées. De violents heurts ont éclaté dans la soirée. La police est intervenue pour exfiltrer un homme pris à partie par la foule. La tension monte encore d'un cran, tout comme la détermination des manifestants. À Hong Kong, Angélique Forget.
Le visage entièrement cagoulé pour cacher son identité, Andy, 18 ans, c'est comme ça qu'il se fait appeler, promet de ne rien lâcher. Depuis début juin, il est de toutes les manifestations.
En fait, on ne va rien abandonner, car c'est l'une des caractéristiques des Hongkongais. On ne lâche rien avant d'avoir ce qu'on veut. L'une des valeurs de base de Hong Kong, c'est la liberté, ce que le gouvernement chinois ne veut pas entendre.
Au total, plusieurs centaines de jeunes manifestants comme Andy ont bloqué l'accès au départ de l'aéroport. Une décision forte et assumée car ils veulent attirer l'attention des voyageurs et du monde entier sur leurs revendications. Carly, étudiante infirmière, veut notamment dénoncer les violences policières du week-end dernier.
On est très déterminés, car une manifestante a eu son œil droit blessé. Elle l'a perdu pour toujours. Si on abandonne maintenant, tous nos efforts jusqu'ici auront été vains.
À l'approche du 11e week-end de manifestation, la mobilisation ne faiblit pas. Dimanche, une grande marche est prévue.
Et le trafic aérien a repris au petit matin à Hong Kong. La Chine, elle, accentue encore un peu plus la pression. Depuis hier, les médias d'État diffusent des images montrant des troupes militaires massées à la frontière.
Il est 7h05, le journal Julie Paco. Julie, c'était il y a un an, tout juste, le 14 août 2018 à 11h36.
Le pont Morandi à Gênes, en Italie, s'effondrait dans un immense fracas. emportant 43 vies avec lui. Parmi les victimes, 4 jeunes Français en voiture pour un festival de musique techno, dont William Pouzadou, 22 ans. Un an après la catastrophe, ses proches se sentent désemparés face aux procédures judiciaires en cours. Et Ariane Grissel, faute de pouvoir se payer un avocat, la famille a été contrainte d'accepter à contre-cœur une indemnisation.
Ça ne faisait même pas 4 mois que William était mort et déjà...
On a reçu un premier courrier dès le mois de novembre pour nous proposer une indemnisation que nous avons catégoriquement refusée à ce moment-là.
Véronique Pouzadou, la mère de William.
Moyennant quoi, les responsables de la société d'autoroute auront droit éventuellement à une réduction de peine.
Après plusieurs refus, les parents et les 3 frères et sœurs de William doivent se rendre à l'évidence. Ils ne pourront pas financer toute une procédure judiciaire.
Nous avons finalement accepté, contraints et forcés, et la mort dans l'âme. Après une somme qui a été allouée par notre assurance, quand les 16 000 euros seront dépensés, tous les frais resteront à notre charge.
Véronique Pouzadou le répète sans cesse, nous avons été contraints et forcés d'accepter, elle dit, culpabilisée, avoir parfois la sensation d'avoir abandonné son fils.
Je suis toujours malheureuse, mais je suis également un peu en colère. Parce qu'à partir du moment où nous aurons accepté l'indemnisation, nous n'aurons plus accès au procès.
Même amertume chez Clémence, la sœur de William.
Je culpabilise en ayant l'impression d'être vénale ou de ne pas faire assez honneur à William. Moi, je ne me vois pas du tout partir non. En 10 ans de procès, je sais que ça me fera bien plus de mal que de bien et enfin, j'aimerais que ça s'arrête en fait.
Aujourd'hui, Véronique Pouzadou n'a aucun contact avec les familles des 3 autres victimes françaises. Ses messages restent sans réponse. Sa plus grande crainte en acceptant de quitter le processus judiciaire et surtout que son fils et ses amis sombrent dans l'oubli.
Ariane Grissel, et une cérémonie est organisée aujourd'hui à Gênes en présence du président Sergio Mattarella et du grande partie du gouvernement dont le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Matteo Salvini qui a essuyé un premier revers hier. L'homme fort du gouvernement italien a vu l'examen de son projet de motion de défiance repoussé au 20 août par les sénateurs. Motion qui vise à renverser le gouvernement de Giuseppe Conte. L'Union européenne appelée à la rescousse en Grèce. Le pays doit faire face à un violent incendie qui ravage l'île de Bé. L'Union européenne mobilise 6 hélicoptères et 9 bombardiers d'eau, dont un français. La France, qui fait partie du mécanisme européen Rescue, opérationnel depuis le début de l'année, en prévision des feux de forêt.
Il est 7h07, la crainte des habitants de la vallée de Loribel dans l'Aude.
38 enfants de moins de 11 ans présentent des taux d'arsenic supérieurs à la moyenne. D'après les chiffres révélés par l'ARS, l'Agence régionale de santé, triste legs de la mine d'or de Salsigne, voisine, fermée depuis 15 ans, elle était la plus grande d'Europe. Elle continuerait donc d'émettre des déchets toxiques. Et Emine Ferry, sur les 103 enfants dépistés, un tiers ont un taux supérieur à la dose d'arsenic maximale.
Oui, et certains ont même quelques symptômes, des maux de tête, de ventre, des vomissements. Inquiétant, surtout quand on sait que l'exposition régulière à l'arsenic pendant des années peut entraîner des risques de cancer. Mais l'Agence régionale de santé, l'ARS, veut se montrer rassurante. Ces tests révèlent seulement que les enfants ont été exposés dans les 10 jours précédents, explique-t-elle. Cela ne veut pas dire qu'ils sont gravement intoxiqués. Elle recommande donc de ne pas les laisser jouer avec la terre, de surveiller les puits, d'éviter les fruits et légumes qui auraient pu être en contact avec une eau suspecte. Des instructions à suivre pendant 2 mois avant un nouveau contrôle des enfants pour voir si le taux d'arsenic a baissé. Il y a aussi une plateforme téléphonique pour répondre aux interrogations des familles, mais cette prise en charge est insuffisante pour les parents. Des parents inquiets qui ne se sentent pas écoutés, ils ont lancé une pétition en ligne pour demander l'ouverture provisoire d'une école à la rentrée dans une zone non polluée.
Emeline Ferry dans la vallée de l'Orbiel pour France Inter. Les cas de rougeole ont triplé dans le monde depuis le début de l'année. L'OMS a publié un rapport inquiétant hier. Le nombre de malades sur la planète est le plus élevé jamais enregistré. Avec des épidémies en République démocratique du Congo, à Madagascar ou encore en Ukraine, l'Europe n'est pas en reste. Le nombre de cas a doublé en un an. L'institution onusienne pointe du doigt la trop faible couverture vaccinale. L'IGPN saisit d'une nouvelle enquête dans le Var après une fusillade survenue hier soir à Draguignan. 2 personnes ont été blessées lors d'une course-poursuite avec la police. Ils auraient refusé de se soumettre à un contrôle avant de prendre la fuite. L'INSEE publie dans la matinée les derniers chiffres du chômage. L'INSEE, qui retient la définition du chômage donnée par le Bureau international du travail, dont les chiffres trimestriels diffèrent souvent de ceux transmis par Pôle emploi. Et il y en a un qui sera particulièrement scruté, celui sur l'emploi des salariés seniors, c'est-à-dire au-delà de 50 ans, explique Éric Heyer, il est économiste spécialiste des questions d'emploi.
Le gouvernement veut mettre en place une nouvelle réforme des retraites et cette réforme des retraites devrait augmenter la durée de cotisation et donc ça va avoir comme conséquence une augmentation à la fois du taux d'emploi des seniors, mais ça risque de faire augmenter le taux de chômage aussi de cette catégorie-là. Et donc si on a déjà une tendance à la hausse de ce taux de chômage, si on y rajoute une réforme des retraites qui va aggraver cette situation, ça devrait poser problème. On sait que plus longtemps on reste au chômage, plus il est difficile d'en sortir, surtout quand on est senior, et que du coup, si on augmente l'âge de départ à la retraite, ça va être autant d'années que ces personnes passeront au chômage avant de toucher leur retraite. Et donc, ça va paupériser cette catégorie de citoyens.
Éric Heyer avec Fabien Cazot. C'est un duo en or qui s'affiche sur la façade de vos cinémas cette semaine. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, les deux acteurs stars sont réunis dans le dernier long métrage de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, un hommage émouvant au cinéma de la fin des années 60. Une période charnière et bouillonnante où Leonardo DiCaprio est l'acteur et Brad Pitt son cascadeur. Un duo irrésistible, Corinne Pellissier.
On connaissait déjà le potentiel des deux comédiens chez Tarantino. Leonardo DiCaprio, l'esclavagiste dans Django Unchained, et Brad Pitt, en scalpeur de nazi dans le film Inglorious Bastard. Ne restait plus qu'à les réunir. Tentation irrésistible pour le réalisateur qui parvient ici à créer le duo parfait. D'un côté, DiCaprio, en star de téléfilm sur le retour, Rick Dalton.
C'est officiellement vieux. Je suis un spin.
Et de l'autre, sa doublure et son homme à tout faire, Cliff Booth. Le beau gosse cascadeur incarné par un Brad Pitt flamboyant, très content surtout d'avoir décroché le beau rôle.
Vous savez, on n'a pas eu tellement de mots à dire. Quand Tarantino vous appelle et vous dit « Tu vas jouer un tel, et puis toi, tu seras l'autre », il n'y a pas vraiment matière à la ramener, tu dis « Mais oui !»
C'est clair.
T'es une bête, Rick Dalton. Oublie jamais ça.
Et Quentin Tarantino s'en explique.
Il fallait vraiment que le duo fonctionne, qu'on y croit, qu'il soit comme des doubles. Si Léo avait refusé de jouer Rick, je n'aurais sans doute jamais choisi Brad pour jouer Cliff.
Au final, deux très beaux rôles, une icône du cool, un loser magnifique pour deux comédiens qui crèvent l'écran dans un film un peu brouillon mais souvent drôle, qui restitue de manière très pop tout l'univers de la fin des années 60 à Los Angeles.
Corinne Pellissier, Once Upon a Time in Hollywood, ça sort aujourd'hui sur les écrans. Également à l'affiche, Perdri de Erwan Leduc avec Swan Arlo et Fanny Ardant. Film présenté à la quinzaine des réalisateurs. Il raconte l'histoire d'un capitaine de gendarmerie bouleversé par l'arrivée de Juliette, une jeune femme non conformiste dans sa vie.
C'était le journal de Julie Pacoul.